Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi.
Bonsoir, bonsoir à vous, 19h18 sur Sud Radio, chaque jeudi sur Sud Radio, on roule ensemble avec Mobility TV jusqu'à 20h, et bien on va débattre autour de la voiture et de la mobilité avec Francis Bartholomé, ce soir président du Conseil National des Professionnels de l'Automobile. Bonsoir Monsieur Bartholomé.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, Claude Cham est avec nous, président d'honneur de la FIEB, le syndicat professionnel des équipementiers. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, et enfin Guillaume Crunel, directeur associé chez Deloitte en charge du secteur automobile. Bonsoir Monsieur Crunel.
Bonsoir.
Bonsoir messieurs, bienvenue à vous trois. Vous voulez réagir et débattre avec nous, un seul numéro, celui du standard de Sud Radio, 0826 300 300, vous le connaissez, 0826 300 300. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Le 100% électrique est-il vraiment la seule solution?
C'est quand même bien mieux une voiture propre, non?
T'as pas encore compris que cette bagnole là c'est du bidon?
Nom de Dieu.
Nuit. Jour.
C'est pas Versailles ici.
Nuit. Jour.
C'est pas Versailles.
Écoute, on va pas s'engueuler pour une bagnole.
Les voitures, je suis contre. À cause de la pollution.
Elle le sait bien, 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 tellement bien. Ma nouvelle voiture.
Ah oui. Des nouvelles voitures donc en 2035, on va y revenir, le 100% électrique, est-ce que ce sera vraiment mieux? Est-ce que c'est vraiment la seule solution pour le secteur automobile? Je vous rappelle que donc les voitures thermiques doivent disparaître en Europe en 2035. C'est proche, 2035. Qui a dit, tiens, la transition vers la voiture propre dépasse les limites de ce que l'industrie peut supporter? Eh bien, c'est Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Pour lui, une voiture électrique, c'est 50% de coût additionnel à un véhicule conventionnel. Le tout électrique en 2035. Est-ce qu'on va trop vite? Messieurs, je vous pose la question. Tiens, Francis Bartholomé, est-ce que vous êtes d'accord avec Carlos Tavares?
À ce qui est certain, je partage ce que a dit Carlos Tavares. Je crois qu'il faut dire que on est tous... D'accord, pour que lutter contre un réchauffement climatique, lutter contre la pollution des voitures, ça paraît d'un bon sens. Et d'ailleurs, il ne faut pas laisser simplement aux seuls écologistes la parole sur le sujet. Je crois qu'il n'y a pas un distributeur automobile, il n'y a pas un concessionnaire, il n'y a pas une personne qui vit dans nos métiers qui n'est pas convaincue par ce genre de choses. Le seul sujet qu'on a aujourd'hui par rapport à ça, c'est un peu donner le temps au temps. C'est à un moment donné, il y a des choses que l'on peut faire. D'ailleurs, Claude, au niveau de l'industrie, on pourra en parler largement plus que moi. Mais il y a un moment donné, il faut se donner des objectifs. Et tout objectif est intéressant si un jour il est atteignable. Donc inévitablement, oui, il faut aller vers de la voiture décarbonée. Personne n'est contre. Alors le tout électrique, on verra comment il s'ajustera. Mais il faut savoir donner le temps, notamment avec des hybrides rechargeables, qui sont encore des moteurs thermiques.
Et le coût des voitures aussi.
Alors le coût
on,
des
on
voitures,
va en parler,
le
évidemment.
Coût des voitures, inévitablement, viendra aussi sur le sujet. Et puis bon, puis trouver des solutions au côté faible un peu de la voiture électrique, qui est notamment par exemple l'autonomie et la recharge. Les sujets. Voilà.
Non mais vous avez raison. Parlons concrètement, Claude Cham, tiens, est-ce qu'il sera possible de remplacer toutes les stations-service à essence ou diesel actuelles par des bornes électriques dans 13 ans, donc 2035?
Si je m'en fie à ce que je regarde aujourd'hui sur l'installation des bornes électriques par rapport aux 300 000 qui devaient être prévus, on est loin de compte.
Ouais.
Et donc l'expérience m'a démontré que aujourd'hui les prévisions étaient rarement atteintes et donc je suis très sceptique. Mais pour reprendre la question précédente, Monsieur Tavares a parfaitement raison.
Ouais.
Pourquoi l'Europe veut s'imposer ce que d'autres pays comme la Chine ou comme les États-Unis ou comme l'Amérique du Sud ou d'autres ne s'imposent pas? Il faudrait qu'on nous explique le pourquoi de la chose. Si on nous l'explique rationnellement, on peut comprendre. Et pour l'instant, la raison, je ne la vois pas tellement et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. La preuve...
Parce qu'il faut se fixer des objectifs, Guillaume Crunel, et se donner une deadline, voilà, une date. C'est ça aussi, surtout. Hein.
Bah, je pense que le fond du sujet, c'est de se donner une date, mais c'est aussi de voir si, elle est indéniable, et secondement, si on se donne les moyens de l'atteindre. Il faut quand même voir que transformer une industrie, je dirais, centenaire de cette manière-là, à ce rythme-là, pose des questions sur la faisabilité technique, pose des questions sur l'acceptabilité sociale. Est-ce que les gens vont accepter d'aller vers cela? Même si on a des augmentations des ventes, de la part des ventes de l'électrique aujourd'hui, ça se fait quand même dans un contexte de recul global des ventes. Et puis la dernière, elle est, vous l'avez évoqué tout à l'heure, je dirais de l'accessibilité tarifaire de ces véhicules, puisque on est en train de parler non pas de véhicules de niche, on est en train de parler de véhicules de masse. Et dès que lors qu'on parle de véhicules de masse, il faut qu'il soit un prix qui soit acceptable par la, je dirais, par l'ensemble de la population, et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, on a des vrais
sujets. C'est combien une voiture électrique?
Bah, je veux dire, aujourd'hui, les voitures que vous regardez, les voitures électriques valent plus de 50 000 euros, voire beaucoup plus. Vous avez quelques modèles qui viennent tutoyer les 30 000. Moi, je vais juste vous partager un chiffre assez récent sur une étude qu'on va faire paraître. En France, aujourd'hui, vous avez 90% de la population qui n'est pas prêt à payer un véhicule électrique plus de 50 000 euros. Et au sein de cette population-là, vous avez 75% de toute la population qui n'est pas prêt à payer un véhicule électrique plus de 30 000 euros. Aujourd'hui, entre la capacité des uns à payer et l'offre de produits, il y a une totale différence. Et en tout cas, l'équation aujourd'hui ne fonctionne pas.
Alors, est-ce que selon vous, on va y arriver au tout électrique? Est-ce que ce sera possible en 2035? Dans 13 ans, 0826-300-300, Olivier de Beaucaire est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Olivier. Vous roulez à l'électrique, vous, Olivier?
Moi, j'ai une voiture hybride.
Ah.
Donc là, c'est un commencement.
Voilà, c'est un bon début.
Voilà, mais pas du tout, parce qu'on ne se donnera pas les moyens. Il y a des trucs, par exemple, dans les bouchons qu'on voit là.
Olivier, on vous entend pas très bien, Olivier.
Alors, attendez, je vais
allez-y, me déplacer. Allez-y, voilà, déplacez-vous, Olivier. Pas en voiture, j'espère.
Non.
Bon, très bien. Très bien.
Ne bougez pas, je vais essayer de trouver une place.
Alors, il y en a beaucoup, hein, Monsieur Bartholomé, comme Olivier, par exemple, beaucoup de Français qui n'y croient pas au tout électrique.
Le tout électrique, à mon avis, sera...
Le 100% électrique.
Là, on parle bien des ventes, hein, sur le 100% électrique. Le parc, lui, sera encore majoritairement thermique, on est bien d'accord.
Ouais.
Mais c'est important pour nous, pour nos métiers de l'après-vente. Mais dans le sens de ce que disait notre ami, je regardais dans mes affaires, pas un instant, regardez le virage des acheteurs sur la dernière partie de l'année. Alors, au-delà du problème de certaines marques qui ne peuvent pas livrer à cause des semi-conducteurs, les gens qui achètent ces voitures, alors, tout électriques, voire hybrides rechargeables ou hybrides, sont de plus en plus âgés. La clientèle, effectivement, donnant les moyens financiers, ça correspond à ce que vous dites. Moi, dans mes affaires, aujourd'hui, l'âge moyen d'achat d'une voiture neuve, et notamment électrique, en quand je dis électrique, je dis bien l'ensemble des deux, hein, hybride rechargeable électrique, elle est passée à 65 ans. C'est-à-dire que les gens qui ont vraiment les possibilités de s'acheter ce type de voiture...
Et ce ne sont pas ceux qui roulent le plus.
Et ce ne sont pas ceux qui roulent le plus.
Et, oui.
Et ce sont des gens qui, effectivement, n'ont peut-être même pas les grands problèmes de déplacement et d'autonomie. Donc, ce qui se passera après dans les voitures électriques, je pense que ça sera, l'accessibilité viendra par les métiers, par les loueurs longue durée qui travailleront avec les entreprises. Donc là, ça sera une impossibilité de le développer. Et puis, on restera sur un développement en interne dans les grandes agglomérations en intérieur de ville. Maintenant, vendre 100% en 2035 de voitures que d'électriques, moi, personnellement, j'y crois pas.
Alors, on parle beaucoup des conducteurs, des automobilistes, il faut aussi parler de ceux, non pas qui fabriquent ces voitures, mais aussi qui les réparent. Est-ce qu'en 2035, quand on l'espère, quand ce sera possible, le 100% électrique, est-ce que tous les salariés qui travaillent, les mécaniciens dans des garages, est-ce qu'on aura besoin autant d'eux? Est-ce qu'il n'y en a pas une partie qui, malheureusement, vont se retrouver en chômage technique, Claude Cham? Et François Bartholomé. Après, M. Crunel, j'aimerais avoir votre avis aussi.
Sur le sujet, déjà au niveau de la fabrication des véhicules électriques, on sait que sur un véhicule électrique, il faut 32% de main-d'œuvre de moins que sur un moteur thermique. Un moteur électrique, c'est beaucoup plus simple qu'un moteur thermique. Donc, inévitablement, quand on ira au niveau de la réparation, on sait aussi qu'un moteur électrique, quand il tourne, plus il tourne, moins il tombe en panne. Donc, vous pouvez, dès à présent, nous estimons aujourd'hui, rien que sur la filière des équipementiers automobiles, que nous aurons un impact de main-d'œuvre entre 30 et 40 000 personnes qui seront touchées par ces modifications. Je ne vois pas quelle raison ferait que la réparation et que tout le système de l'après-vente ne soit pas affecté par cette modification. Sur la question moteur électrique, je reviens sur un thème fondamental. Le problème, ce n'est pas de rouler en 100% électrique, que je sache. Le problème, c'est d'éviter des émissions de CO2. Il n'y a pas qu'une solution pour éviter des émissions de CO2.
Il y a l'hydrogène, par exemple. On va en reparler en fin d'émission.
Il y a les biocarburants, il y a des moteurs thermiques à 2 litres au 100. Il y a tout un tas de solutions. Donc, prendre un risque social aussi important que celui-là, je continue, je ne comprends pas.
Oui. Ah, on va rejoindre Olivier, qu'on a retrouvé, Olivier de Beaucaire, au 0826-300-300. Bon. Il nous reste une petite minute trente, Olivier.
Moi, je dis que le 2035, c'est court. 2050, peut-être. Le jour où on pourra faire des voitures qui se rechargent par induction et qu'on équipera les routes, c'est-à-dire les autoroutes, par exemple, vous roulez, la voiture se recharge comme un téléphone quand on le pose sur un chargeur induction, peut-être que là, on pourra passer au tout électrique. Parce que là, vous avez des gens, par exemple, qui partent en vacances, qui restent bloqués dans les bouchons pendant une nuit, avec une voiture électrique, on les retrouve morts le lendemain. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Hein. Donc, il va falloir remédier, parce que les bornes, c'est pas le top, quoi. L'idéal, c'est d'avoir une voiture qui se recharge en roulant, mais par induction sur la route. Donc, il faut changer toutes les infrastructures, les principales, pour pouvoir charger son véhicule vers Marseille-Paris. Sans interruption, mais ça sera pas en 2035.
Non, voilà, ni en 2050. Enfin, je sais pas, ça va être long, non?
Ça va être long par induction.
Ah c'est oui, effectivement compliqué aussi.
C'est effectivement une technologie qui existe.
Ouais.
Elle est expérimentale pour l'instant, mais avant qu'elle soit, je dirais, au niveau économique mise en place, je dirais de façon industrielle, il va se passer quand même un peu de temps.
Merci Olivier, merci d'avoir réagi, d'avoir débattu avec nous. On va revenir dans quelques instants. Les vraies voix qui font rouler la France. Tiens, on va parler des ZFE, les zones à faible émission, limiter les déplacements. Ça, c'est la volonté de plusieurs villes en France pour lutter contre la pollution. On y revient encore. Tiens, depuis le 1er janvier, sachez que Lille, Strasbourg ou encore Reims se sont lancés dans ce dispositif. Quelles conséquences pour ces zones à faible émission? Est-ce que vous y êtes favorable? J'attends vos réactions là encore, comme Olivier de Beaucaire, 0826-300-300. Et on en débat tout de suite avec Francis Bartholomé, Claude Cham et Guillaume Crunel. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi.
Et jusqu'à 20h, il est question d'automobile et de mobilité, les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Je vous présente nos vraies voix du jour, Francis Bartholomé, président du Conseil national des professionnels de l'automobile. Claude Cham est avec nous, président d'honneur de la FIEV. La FIEV, c'est le syndicat professionnel des équipementiers. Et puis Guillaume Crunel, directeur associé chez Deloitte en charge du secteur automobile.
Il faut que tu respires. Ça, c'est rien de le dire.
Et pour lutter contre la pollution, alors plusieurs villes ont décidé de limiter les déplacements en instaurant des ZFE, voilà les zones à faible émission, selon les données de Santé publique France. Ces zones permettront d'éviter la mort de 40 000 personnes chaque année. Et depuis le 1er janvier, depuis quelques jours, les villes de Strasbourg par exemple, Lille ou encore Reims se sont lancées dans ce dispositif. Des zones à faible émission qui ne seront pas sans conséquences. On va en parler pour les artisans par exemple. Bien souvent, eux, ils roulent en camionnette et un changement de véhicule, eh bien, ça a un coût, on en a parlé tout à l'heure. Il faut compter entre 15 et 20 000 euros pour la conversion d'un véhicule. J'aimerais avoir votre avis. Tiens, Francis Bartholomé, ces zones à faible émission, déjà, est-ce qu'elles sont justifiées? Est-ce que ça marche?
Alors, moi, je peux concevoir qu'inévitablement, si on va vers une réduction des émissions polluantes, que dans les centres-villes, effectivement, dans lesquels, depuis un certain temps, d'ailleurs, les zones 30 existent, on fait disparaître de plus en plus la voiture. À partir du moment où il y a une organisation, que c'est structuré, alors je vous avais parlé de Reims, je suis Rémois, donc je connais bien Reims, pour participer. Le tout, c'est de se dire quelle est la partie du centre-ville qu'effectivement on peut exclure, qui est tout à fait possible, de donner un peu de temps au temps, c'est-à-dire que les vignettes critères, elles sont pas toutes ramassées pour dire au 1er janvier 2023, il y a le 3, le 4, le 5. La ville de Reims s'est donné le temps nécessaire, une année jusqu'en 2024. Et je peux même dire, parce que vous avez cité Reims, qu'à Reims, en 2024, ils pourront encore rouler les vignettes de diesel critère 2. Donc on voit qu'on peut donner, si vous voulez. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est quand, par exemple, une ville comme Paris prend des décisions intempestives telles qu'il l'aurait été pour dire il n'y a plus de diesel dans un an ou dans deux ans. Là, c'est extrêmement compliqué. D'abord, c'est pas envisageable. À tel point que c'est pas envisageable, c'est que toutes les mesures qui auraient dû être normalement répréhendées sont pour l'instant reporté d'un an. Donc on voit bien que ce n'était pas envisageable. Ceci étant, dans les villes, moi je ne suis pas contre d'une organisation mais qui permette de voir où les gens ont le parking, où qu'on traite devant les gens de l'artisanat, qu'on traite les gens, les commerçants, de regarder et puis une nouvelle fois de donner le temps. Ce n'est pas désagréable d'avoir des villes où il y a beaucoup de piétonniers, où il y a beaucoup d'un certain nombre de choses, où les gens peuvent en profiter. Quand on est raisonnable sur le sujet, ça me paraît important. Moi ce que je crains, ce que je regrette beaucoup dans cette affaire, c'est que c'est souvent encore un certain nombre d'idéologies envie de car-bashing sur le sujet qui vraiment, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Mmh. C'est un peu comme ça, d'ailleurs, que c'est préempté un peu par le consommateur ou par le consommateur. Et ça, c'est pas dans le bon sens.
Claude Cham, ils sont déconnectés, ces élus, ces politiques, voilà, qui comme ça, instaurent des zones à 30 km/h, expliquent qu'en 2035, il faut passer au 100% électrique, sans prendre en compte que les Français, déjà, ont du mal quand ils ont des thermiques à changer de voiture, souvent.
Oui, nous sommes à une époque où, effectivement, l'utilisation de certains mots peut amener à la transgression. Je ne dirais pas qu'ils sont déconnectés, alors, mais je me permets de vous dire que je pense qu'ils n'ont pas tout à fait analysé le problème à fond. Première chose, que chaque ville ou que chaque circonscription se mette à décréter des zones ZFE avec ses propres critères sans qu'il y ait une coordination nationale, me semble, au plan du bon sens, quelque chose qui me pose problème au plan des libertés individuelles dans ce pays. Je pense que le minimum serait qu'il y ait un cadre national qui permette d'en définir les frontières. Deuxième chose, moi j'ai fait faire des études à la FIEV sur ces zones ZFE qui sont aujourd'hui implantées et qui sont déjà efficaces. Quels sont les secteurs sociologiques les plus touchés ? L'évidence du bon sens vous démontre par la statistique que ce sont les zones qui sont sociologiquement les moins riches. Parce que ce sont les gens qui ont structurellement les voitures les plus anciennes. Donc ce sont des gens qui vont être pénalisés. Souhaitons-nous faire des voitures que pour les riches ou pour les bourgeois ? Ou souhaitons-nous donner aux travailleurs, je dirais, la possibilité de se rendre à leur travail dans des bonnes conditions ? Troisième chose, je prends ma voiture, j'arrive sur la 14, j'ai mon GPS qui me dit « attention ». Vous rentrez dans une zone
à faible émission
ouais. réglementée. Assurez-vous que votre véhicule correspond bien. C'est au plan pratique, je fais quoi quand je suis au péage de la 14 avec mon véhicule ? Je fais demi-tour. Je suis artisan. Je travaille dans une zone qui n'a pas ce genre de restrictions. Je ne peux plus venir travailler. Je trouve que tout ceci est fait de façon pas cohérente.
Ouais.
Je trouve que ceci est bien précipité. Je pense que ceci relève plus de l'idéologie que, je dirais, du bon sens et que l'on cherche à améliorer, je dirais, les émissions de gaz à effet de serre, je suis tout à fait d'accord. Mais faisons-le,
Faisons-le bien. Guillaume Frenel, vous êtes d'accord avec Claude Cham et Francis Bartholomé ?
Bon, je pense qu'on peut être que d'accord. D'accord sur le fond. Maintenant, je veux dire, le vrai principe, c'est si on peut tous aspirer à des villes plus respirantes, c'est tout à fait normal. La vraie question, c'est que quand on enlève une possibilité, un moyen de transport, il faut avoir mis en place
Une alternative.
Voilà.
Bah oui.
Bon, je pense qu'on a tous Paris en tête, mais Paris est une ville où il y a déjà des alternatives qui existent. Aujourd'hui, la loi telle qu'elle est faite va imposer des ZFE dans toutes les villes qui sont de plus de 150 000 habitants. Ça fait une trentaine en France. On n'est pas dans cette même offre de transport public, d'offre de mobilité. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Après, l'aspect de la progressivité est importante. Aujourd'hui, sur les vignettes critères, la première chose, c'est de supprimer la critère 5. Critère 5, c'est des véhicules diesel contre 20 et 25 ans. On peut considérer que c'est important, mais ce n'est pas le gros du parc. Mais quand on va un peu plus vite, on voit qu'il y en a qui... certains parlent maintenant de limiter au critère 3, horizon, le mois de juillet pour certaines grandes villes. Critère 3, c'est quoi ? C'est des véhicules diesel entre 10 et 15 ans. Le parc moyen français des véhicules est de 10 ans, 10 ans et demi, voire un peu 11 ans. Il faut voir qu'au moment où on a acheté ces véhicules-là, la part du diesel dans le mix global que nous, français, nous poussions, est plutôt de 80%. Donc, on va arriver sur des choses qui ont des vraies conséquences pour les gens. Il faut mettre en place des solutions alternatives, voire des solutions de financement. Et là, pour le moment, le compte n'y est pas vraiment.
Ouais. Et puis surtout, on le disait, Francis Bartholomé, ça pénalise donc les commerçants, les artisans, les zones où il y a des marchés aussi, parce que beaucoup prennent leur voiture pour aller au marché
le marché. On touche un point important du sujet, là, Coulet, c'est que moi, je crains beaucoup les réactions sociales et sociétales, puisqu'il y a un moment donné, quand on regarde le sujet, tout à l'heure on parle des voitures électriques, elles sont hors de prix, là on parle de gens qui auront des difficultés si on accélère trop vite le processus des ZFE, qui ne pourront plus y aller, on voit qu'on est en train de créer un mécontentement assez général, tout ça parce qu'on on veut aller beaucoup plus vite que la musique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le bon sens, là, je disais tout à l'heure, on est tous de bon sens sur le sujet. Moi, je me sens aussi écologique que n'importe quelle écologie qui le veut. Et voilà, simplement, regardons. D'une part, protégeons notre industrie, parce qu'on ne l'oublions jamais. Si on n'a plus d'industrie, on n'aura plus de services. Et moi, je crois que c'est une première chose qu'il faut faire. Protégeons un peu l'ensemble des professions de nos métiers. Je plaide assez souvent pour l'ensemble des métiers de la distribution et de la réparation. On en a touché deux mots tout à l'heure. Et puis, protégeons quand même la population par rapport à ses possibilités demain et ses mobilités dont elle a absolument besoin. Donnons le temps nécessaire, faisons ce qu'il faut. Il y a des moyens, des possibilités, mais attention aux décisions dogmatiques et trop rapides qui risquent de faire une casse sociale qui serait, à mon avis, bien désagréable.
Alors, entre nous, hein, et vous, évidemment, qui nous écoutez, elles sont respectées, ces zones à faible émission. Tiens, prenons le cas de Paris. Vous parliez de Paris, 30 km/h. Moi, je suis à Paris, quand je prends la voiture, j'ai pas l'impression qu'autour de moi, dans certaines zones, on roule à 30 km/h.
Personnellement, j'ai pas de chiffres de retour.
Je vous demande pas vous si vous respectez. Je vous ai pas posé la question.
Évidemment, oui.
Évidemment. Non, mais sérieusement, Guillaume Crunel.
Non, je pense que une fois qu'on met une règle, il faut mettre en place les éléments de contrôle. Aujourd'hui, le contrôle, il est fait de manière ponctuelle par les forces de l'ordre, donc avec, je dirais, une couverture qui est plutôt limitée. Et tant mieux, d'une certaine manière. Après, ce qui est prévu dans la loi, c'est la possibilité à terme de mettre des éléments de contrôle, je dirais, automatisés, de caméras, comme ça peut arriver dans d'autres villes internationales qui ont mis en place des péages urbains. Donc là, on rentrera dans une logique de contrôle ponctuel à une logique de contrôle systématique. On rentre dans un autre paradigme. C'est un autre type de société.
Non, Claude Cham.
Écoutez, moi, si nos jeunes enfants... petits-enfants, et si vous souhaitez vivre dans un monde complètement hyper contrôlé, réglementé, etc., allons vers ça.
C'est ce qui se passe en ce moment.
En tous les cas, personnellement...
C'est assez contrôlé en ce moment.
Oui, moi, je suis un amoureux de la liberté. Ouais. Ma voiture m'a toujours permis, quand je voulais, à n'importe quelle heure, d'aller où je voulais, comme je le voulais, tranquillement. J'espère pouvoir en bénéficier jusqu'à la fin de mes jours. Et je rêve pas de ce monde-là pour mes enfants ou mes petits-enfants.
Francis Bartholomé.
Oh, c'est clair que un monde à la chinoise où tout est contrôlé par la partie visuelle et permanent. Moi, c'est un monde que je ne veux pas voir non plus. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé de zone 30. Les zones 30 ne sont pas obligatoirement les ZFE. Hein. Les zones 30 peuvent se comprendre. Une ZFE. Le problème de la ZFE, c'est cette façon de vouloir dans une ville.
En fait, certaines voitures, on parlait des critères, n'ont pas le droit d'y entrer. La différence avec les zones 30.
Après, c'est quoi la ZFE, si vous voulez ? Si elle se correspond à certaines zones 30, qui effectivement sont vraiment des artères de centre-ville, ça peut se concevoir, mais à un moment donné, comme Claude disait tout à l'heure, si c'est pour l'étendre tout à fait une agglomération avec ses périphériques autour, et que globalement, là, on va pénaliser totalement toujours les mêmes personnes, ceux qui n'auront pas les moyens d'envoyer un véhicule pour y rentrer, là, il y a un véritable problème. Et c'est ce qu'on dit au gouvernement, on le répète, attention à ces sujets-là, la mobilité des Français, on ne fait pas ce qu'on veut avec. Quoi. Et à un moment donné, il peut y avoir des réactions. Et puis je pense qu'il va y avoir des élections présidentielles, je crois, très prochainement. Je suis persuadé, moi, que les déplacements, la mobilité, l'automobile va faire partie intégrante, effectivement, de réflexion.
Parce qu'on a beaucoup parlé d'immigration, de sécurité, beaucoup du Covid en ce moment. J'espère que l'automobile aura sa place d'ici quelques semaines. Tiens, et pour finir sur ce sujet, Claude Cham, qu'est-ce que vous attendez des candidats à la présidentielle sur l'automobile ?
J'attends aux candidats à la présidentielle, comme j'attends de toutes les fonctions publiques, qu'elles soient nationales ou internationales au niveau européen, d'avoir dessous de raison. Et d'avoir dessous de bon sens et de réalité. Je répète ce que j'ai dit en tout début, je pense que l'Europe se veut exemplaire sur un sujet où d'autres marchent à un autre pas que nous. Je ne vois pas la nécessité de pénaliser des millions de citoyens européens par rapport à des milliards d'autres citoyens, d'autres pays qui risquent, pardonnez-moi de le dire comme ça, de trouver cette opportunité extrêmement intéressante pour nous vendre leur voiture à un prix défiant toute concurrence.
Mais bon, on peut faire confiance quand même au bon sens de nos politiques, Guillaume Crunel, si dans quelques années on voit que ce ne sera pas atteignable en 2035, j'imagine qu'ils repousseront l'échéance. Hein, on est d'accord.
Je vais pas faire de politique.
Il fallait donner une date pour donner une date, c'est
non,
tout.
Non, je pense que les dates, elles sont données par rapport à des trajectoires d'émissions de CO2 alignées sur les objectifs de l'accord.
Non,
de
mais Paris. Sur la faisabilité.
Ah bah la faisabilité, ça va être une, ça sera une autre histoire. Maintenant, je reviens sur ce qu'a dit Claude. Les voitures de demain, c'est important pour nous, je pense, français, européens. Les voitures de demain, elles sont quoi? Elles sont électriques à batterie, elles sont technologiques, elles ont du logiciel. Où est-on très fort en logiciel? Où est-on très fort à batterie? Je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Pour quelqu'un qui voudrait défendre l'industrie française aujourd'hui, de prendre ces deux sujets à bras-le-corps.
C'est ce que je pense. C'est ce que j'attends de nos gouvernants. Les gouvernants sont là pour, je dirais, guider les peuples dans le meilleur intérêt des peuples. Et ils doivent se préoccuper de ces problèmes de géopolitique, parce qu'aujourd'hui, c'est quand on ne fait plus la guerre comme on la faisait dans le passé, c'est une guerre économique, et bien évidemment, l'espace européen représente une attraction énorme pour un certain nombre de pays qui sont à nos ports.
Ouais. Francis Bartholomé.
J'ai une statistique que j'aime bien, moi, c'est les émissions de CO2 au niveau mondial. La France, c'est 0,9%. 0,9%. Quand on aura fait vraiment beaucoup d'efforts, on représentera peut-être 0,7%. Vous vous rendez compte, par rapport à d'autres pays? Et nous, on a une pression telle aujourd'hui alors qu'on va faire pénétrer des voitures chinoises électriques à des coûts qui sont déjà amortis dans leur pays puisqu'ils ont un marché colossal, on va faire venir ces voitures-là qui sont fabriquées avec des usines à charbon qu'on augmente tous les jours et des usines au gaz qu'on augmente tous les jours. Il y a un sujet là, il y a un sujet global quand même. J'espère que nos politiques, alors le président sera à Bruxelles pour nous représenter à partir du 1er janvier, je pense qu'il y a un vrai problème européen à nos frontières, qu'on réagisse beaucoup, à la fois pour sauver notre industrie, mais aussi pour avoir du bon sens au niveau de nos collaborateurs, au niveau de nos concitoyens qui comprendraient beaucoup mieux les choses.
Bon, ben écoute, vous êtes consulté, tiens, vous qui êtes des personnages du secteur de l'automobile, vous êtes consulté par les politiques, les élus
Oui, nous exprimons très clairement. Moi, je peux vous dire très clairement que j'ai exprimé auprès des ministres que je rencontre une statistique très simple. Les Chinois sont équipés à 118 voitures pour 1000 habitants. Nous, Européens, nous sommes équipés à 500, à 600 pour 1000 habitants, les Américains, 850. Imaginez simplement que les Chinois doublent leur taux d'équipement dans les 10 ans qui viennent, avec 1,4 milliard, ils auront, comme vient de le dire Francis, toute capacité à amortir sur leur marché domestique tous leurs coûts, R&D, marketing et industriel. Quand vous êtes là, je ne suis pas le plus grand économiste de la Terre, mais je sais qu'on peut attaquer le monde.
Mais vous avez du bon sens. Qu'est-ce qu'on vous répond, tiens, d'ailleurs
marginal.
Qu'est-ce qu'on vous répond?
Bien, on me répond que...
Quand on vous répond.
Oui, quand on me répond, on me répond qu'effectivement c'est un danger et on me dit comment faire pour. Comment faire pour. Alors je pense qu'il y a des solutions, effectivement.
Oui. Francis.
Sur le sujet, avec Claude, on a un comité stratégique de filière. On a obtenu normalement la neutralité technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore dans un système où on doit réfléchir à cette neutralité technologique avec du bon sens. On doit réfléchir encore sur le moteur thermique et ce qu'il peut être demain avec les nouvelles sources d'approvisionnement de ce moteur thermique. Donc, on voit bien qu'on nous écoute. Vous allez voir, il y a un sujet qui va être très intéressant, c'est comment Bruxelles va préempter le problème des hybrides rechargeables. Parce que l'hybride rechargeable, c'est un thermique.
Oui.
Quand on ne veut plus d'hybride rechargeable, il y a un problème, là. Vous voyez ce que je veux dire?
Ce que je voudrais vous dire, il ne faut pas croire que le train est parti. On sera obligé de rentrer dans cette concurrence. Et ce que je veux dire sur le sujet, c'est qu'il faut y aller, mais il ne faut pas y aller avec la naïveté, avec celle que je pense que nous y allons. Mais le train d'une nouvelle mobilité, il est en route et on ne l'arrêtera pas. Donc il va bien falloir qu'on s'adapte.
Allez, on va se retrouver dans un instant. Merci à vous, Guillaume Crunel, directeur associé chez Deloitte en charge du secteur automobile. Merci, monsieur Crunel. On va se retrouver dans quelques instants et nous recevrons, et tiens, à votre place, Pierre-Étienne Franc, fondateur de la plateforme 5T Hydrogène. L'objectif de Pierre-Étienne Franc, produire de manière industrielle. On en parlait d'ailleurs de l'hydrogène vert propre, sans énergie fossile. Tiens, il répondra à vos questions, Francis Bartholomé et Claude Cham, les questions des vraies voix qui font rouler la France. Ce soir et désormais, notez bien, tous les jeudis soirs sur Sud Radio, avec vous aussi au 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi.
Avec Mobility TV et jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio. Ce soir, je suis entouré de Francis Bartholomé, président du Conseil National des Professionnels de l'Automobile, de Claude Cham, président d'honneur de la FIEV. La FIEV, c'est le syndicat professionnel des équipementiers. Puis, je vous propose d'accueillir tout de suite Pierre-Étienne Franc. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, bienvenue. Bienvenue sur Sud Radio, fondateur de la plateforme 5T Hydrogène. Vous levez des fonds pour donc produire, et on en parlait tout à l'heure, de cette alternative aussi au 100% électrique, de manière industrielle, de l'hydrogène vert, donc propre, sans énergie fossile, objectif 1,5 milliard d'euros. Alors, j'ai noté, moi, tout à l'heure, que vous étiez déjà engagé dans le fonds sur 800 millions d'euros, mais on peut le dire aujourd'hui, et c'est une exclusivité. Vous avez atteint le milliard, Pierre-Étienne Franc.
Alors, non seulement on a atteint le milliard, mais les 800 millions étaient des engagements qui n'étaient pas encore fermes. Mais
d'accord.
Là, entre-temps, le fonds que nous avons lancé en partenariat avec la société Ardian est maintenant doté et en actif, en investissement d'un milliard d'euros et espère bien entendu arriver à 1,5 milliard, 1,8 milliard dans les quelques mois qui viennent.
C'est l'objectif.
Et va investir, juste précise, parce que la particularité de ce fonds qu'on a lancé avec le support de très grands industriels français, notamment Air Liquide, Total, Vinci, mais aussi des Américains, Plug Power et d'autres qui sont des leaders de l'hydrogène, c'est pour la moitié de ce fonds de faire en sorte que le déploiement de l'hydrogène dans les transports se fasse. Donc on est un fonds qui va aider à investir dans les infrastructures de transport. Quand vous savez que les directives européennes vont imposer de déployer des bornes de recharge d'un côté, mais aussi de l'hydrogène, et notamment des bornes hydrogène, enfin des stations hydrogène un peu partout sur le territoire européen, il faut des acteurs, investisseurs financiers pour faire en sorte que ça arrive. Et si ça arrive, alors on peut basculer sur une mobilité hybride entre l'hydrogène, l'électrique et du thermique amélioré. Donc c'est pour ça que ce fonds, il a un rôle particulièrement significatif dans les transports. Quand j'avais envisagé de monter ce fonds il y a plus de 2 ans, j'étais alors du côté Air Liquide, c'était vraiment pour ça. Donc j'ai entendu avec intérêt tous vos débats d'avant, et on a besoin de l'hydrogène pour compléter la gamme, c'est indispensable.
Alors juste parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai qu'on parle beaucoup ces derniers temps de l'hydrogène, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler de manière assez simple ce qu'est une voiture à hydrogène, le principe d'une voiture à hydrogène?
Alors, d'abord peut-être rappeler, l'hydrogène c'est une molécule très abondante, la plus abondante de l'univers, mais qui est ce qu'on appelle une énergie secondaire. Elle a une énergie intrinsèque qui est la meilleure possible, la densité la plus belle en termes de densité par kilo, mais elle est en général combinée, soit avec l'oxygène dans l'eau, soit dans les hydrocarbures. Ouais. En fait, quand vous brûlez des hydrocarbures, vous brûlez beaucoup d'hydrogène. Donc c'est une molécule qui est intéressante parce que si on la récupère avec un peu d'énergie, d'électrolyse de l'eau, on a de fait une source d'énergie propre, très dense. Donc dans une voiture électrique, Elle apporte quelque part ce que la batterie ne sait pas faire. La batterie vous amène une forme de mobilité propre, mais avec des limitations d'autonomie qui seront jamais complètement réglées parce que les densités énergétiques du lithium ne sont pas extraordinaires. Et puis, on recharge lentement. Et là, c'est pareil, il y a des limites physiques pour recharger plus vite. L'hydrogène vous permet, en le stockant sous pression, d'avoir une capacité, une autonomie qui peut aller jusqu'à 700-800 km très facilement. La Mirai de Toyota vient de battre le record Guinness des voitures électriques avec 1400 km d'autonomie. Alors, elle a roulé pour faire le record, mais 1400 km, vous ne trouvez pas ça avec une voiture électrique. Et vous chargez un gaz, parce que vous chargez en fait du gaz sous pression qui alimente une pile à combustible qui alimente le moteur électrique, donc c'est une voiture électrique, donc on récupère les composants des voitures électriques, et vous chargez un gaz, donc vous mettez 3 minutes. Donc, il y a beaucoup de débats sur où est-ce que l'hydrogène se positionne. Mais l'hydrogène, c'est un enjeu systémique, en fait. C'est le vecteur qui permet de complémenter la transition énergétique, qui passe par beaucoup plus d'électrique, en allant utiliser cette électricité sous une forme de gaz dans des secteurs qui ne peuvent pas le prendre sous forme électrique.
Et une voiture hydrogène coûte moins cher qu'une voiture électrique?
Alors non, pas encore. Non. Bon, mais quand même.
Non, mais j'essaie de trouver des arguments.
Mais il y a plein de gens qui disent qu'il y a des sujets sur l'hydrogène. Il y a des sujets comme pour toutes les technos. Une voiture électrique, je crois que la Mirai, elle est autour de 60 000 euros. C'est bien sûr que c'est trop cher, mais vous êtes encore sur des séries de petite taille. Vous êtes sur 10 000, 20 000 véhicules par an. Il y a Hyundai, il y a Toyota, et puis il y a toutes les voitures utilitaires qui vont se développer. Et puis il y a le sujet des transports lourds, qui est là un sujet fondamental lequel il est très difficile de faire sans l'hydrogène sur le camion et la mobilité intensive. Vous avez les taxis aussi, etc.
Alors, Francis Bartholomé et Claude Cham, déjà que vous inspire toute la bataille de Monsieur Franc sur l'hydrogène, Francis Bartholomé.
Oui, le sujet pour moi, c'est simplement le fait qu'on remplace la batterie par une pile à combustible et qu'effectivement, on va retirer tous les soucis de la batterie. Alors d'abord, les composants intérieurs de la batterie, parce que ce que me disait tout à l'heure, je crois que c'est Claude qui disait tout à l'heure.
Pas très écologique.
Construire des batteries, on va prouver que ça ne sera pas très écologiste quand il faudra aller chercher le cobalt et le lithium et ainsi de suite. Donc je crois qu'il y a un problème. Deuxièmement, moi qui suis quand même au contact des clients en permanence et quand on parle de demain de nouvelles technologies et de rouler propre, le vrai sujet d'aujourd'hui, c'est quand même, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est quand même l'autonomie. Même si on va mettre des investissements énormes sur les bornes et qu'on va tous y aller, je veux simplement qu'un jour de départ en vacances, tout le monde avec sa voiture électrique, imaginez l'autoroute A6, quoi. Il va falloir faire quelque chose. Non, il y a des vrais sujets. Je crois que là, on apporte une solution. Alors maintenant, ce qui se dit, vous avez donné un élément de réponse, le vrai problème qu'on a aussi à nos clients, à nos automobilistes qui roulent, c'est qu'aujourd'hui, il va être très cher et très coûteux de fabriquer l'hydrogène propre. Je crois que c'est ça le vrai problème.
Alors, il y a comme toute technologie qui démarre, il y a un enjeu de passage à l'échelle. C'est pour ça que ce fonds existe et que les gros industriels se sont mobilisés et que les financiers vont rentrer aussi. C'est qu'il faut arriver à baisser les coûts à plusieurs niveaux. D'abord, produire de l'hydrogène vert, hein, puisque c'est ça l'enjeu. Si on fait de l'hydrogène à base de charbon, c'est comme les Allemands qui conduisent des voitures électriques avec une énergie à moitié charbon. Je veux dire, c'est très sympa, mais enfin bon, ça n'a pas grand sens. Ça a sens pour l'usager, les émissions locales sont bonnes, mais le bilan global n'est pas génial. Donc, si je veux le faire propre, je le fais par électrolyse de l'eau. Ça marche très bien, mais c'est beaucoup moins efficace que de casser la molécule de gaz. Alors, d'ailleurs, entre guillemets, on peut aussi casser la molécule de gaz et garder le CO2. C'est ce qu'on appelle du carbon capture. C'est pour ça que les pétroliers s'intéressent beaucoup au sujet. Mais on peut le faire par électricité. L'intérêt de l'hydrogène, c'est que je peux rassembler tout le monde. Parce que c'est la molécule ultime du gaz naturel et c'est la molécule que je peux utiliser pour développer de très grandes quantités d'énergie renouvelable et les stocker. Alors, ça coûte plus cher. Ça coûte 2-3 euros du kilo de plus. Et un kilo, c'est 100 km avec une voiture, en gros, hein, en performance. Donc, il faut diviser par deux les prix. En fait, le passage à l'échelle, la baisse des coûts de l'énergie renouvelable font qu'on s'en rapproche. Mais il y aura un léger surcoût, je pense. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose... Je vais peut-être ça va peut-être pas être très agréable aux auditeurs, mais on passe dans un monde énergétique renouvelable, le coût de l'énergie dans le budget des ménages va monter un peu. Il faut se dire la vérité. Et simplement, on va optimiser sur d'autres choses, parce que les bénéfices d'une énergie propre vont se retrouver sur le coût de la santé, sur le niveau de vie des gens, sur la qualité de vie,
etc. Mais à long terme, mais à long terme.
Donc le sujet, c'est de gérer ça. Allez. Et le deuxième point, c'est qu'il faut mettre en place ces infrastructures. Alors vous l'avez très bien dit, il faut comparer les choses. La difficulté avec l'hydrogène qu'on essaye de régler avec ce fonds, c'est qu'il faut mettre tout de suite un réseau. Parce que si vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de bande de recharge chez vous, donc vous ne pouvez pas avancer. Donc vous devez tout de suite mettre quelques milliards. Mais enfin, pour la France, par exemple, il faudrait mettre 2-3 milliards pour avoir une infrastructure complète. C'est un tiers du prix de la ligne TGV entre Paris et Lyon. Et on n'a pas forcément besoin de commencer par ça. On peut commencer par des petites zones territoriales pour les logistiques, les mobilités intensives. La différence avec les bornes de recharge, c'est que quand vous avez fait votre réseau, c'est comme une réseau station-service. Ensuite, vous allez grossir la taille du réseau, mais vous n'allez plus réinvestir énormément. Les bornes de recharge, vous allez investir de manière linéaire avec la progression du trafic. Puis progressivement, vous allez tirer sur le réseau parce qu'il va falloir prendre beaucoup d'électricité.
Ouais. Donc au final, ça coûtera plus cher que l'hydrogène.
Des études ont été faites en Allemagne et dans d'autres pays pour montrer qu'au bout d'un certain niveau d'équipement de voitures hydrogène versus électrique, l'hydrogène coûte moins cher.
Bon, il vous a convaincu
Pierre-Étienne
Faure, non, vous êtes déjà convaincu par l'hydrogène déjà.
J'écoute avec attention. Moi, vous savez, je regarde ça avec beaucoup d'humilité et j'écoute les experts. Quand je vois des sociétés comme Toyota qui se sont lancées et que vous écoutez Didier Leroy qui vous explique que la stratégie de Toyota est d'avoir une multiplicité de solutions, je pense que ces gens-là ont raison. Je pense que l'hydrogène est incontestablement une des possibilités d'aller vers une mobilité beaucoup plus propre. Donc je pense qu'il faut... Alors il y a encore des problèmes, comme ça vient d'être dit, de coûts. Ces problèmes de coûts se résolveront, à mon avis, dans le temps. Il y a, par contre, une certitude que nous avons tous, c'est que pour tout ce qui est le transport lourd, le transport maritime, le transport ferroviaire, l'hydrogène est une solution. Et puis le dernier sujet, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une dépendance à une énergie qui est le pétrole. Tout le monde dit que le problème de souveraineté amène à devoir reposer des questions. L'hydrogène, il est partout. C'est la ressource que nous avons le mieux répartie dans le monde entier. Je pense qu'il faut faire des calculs en prenant en compte tous les paramètres, c'est-à-dire le coût, la souveraineté, l'approvisionnement à proximité, etc. Donc l'hydrogène est incontestablement, pour moi, une des solutions qui permet d'aboutir à ce que je dis toujours, réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Et on y revient. En quelques secondes, Pierre-Étienne Fromm.
Les questions d'emploi aussi, vous citiez les batteries. Sur les batteries, on a un peu perdu la guerre contre les Chinois sur la capacité à produire pas cher. Sur l'hydrogène, c'est encore jouable. C'est pas gagné, mais c'est encore jouable. Et l'autre point, c'est que quand vous achetez pour 10 euros, parce qu'un kilo d'hydrogène, ça va coûter entre 10 et 7 euros demain, parce que ça va baisser. Si vous achetez 10 euros d'hydrogène, la part d'énergie dans le coût, c'est moins de 10%. Le reste, c'est de la part locale. Donc, c'est des emplois locaux.
Merci à vous, Pierre-Étienne Franc, fondateur de la plateforme 5T Hydrogène. Merci à vous, Francis Bartholomé, président du Conseil national des professionnels de l'automobile. Et Claude Cham, qui était avec nous, président d'honneur de la FIEV, le syndicat professionnel des équipementiers. Voilà les vraies voix qui font rouler la France désormais. Et à partir d'aujourd'hui, c'est chaque jeudi sur Sud Radio. Dans un instant, le Loft Musique. Yvan Cujous qui reçoit notre ami Guy Carlier ce soir.